Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce mercredi 21 juillet 2021. J'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'élargissement des relations avec les voisins et la priorité de la politique étrangère du gouvernement a fait savoir le nouveau président iranien Ebrahim Raisi. Damas a mis en garde Israël contre la poursuite de ses attaques contre la Syrie, se déclarant plus près que jamais à reprendre le Golan occupé au régime sioniste. En France, le Sénat adopte le projet de loi Climat et Résilience. Le Premier ministre soudanais réitère son appel à la conclusion d'un accord légal et contraignant relatif au barrage éthiopien sur le Nil. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président élu iranien Ebrahim Raisi a déclaré que l'élargissement des relations avec les voisins constitue la priorité de la politique étrangère de son gouvernement. Lors d'une conversation téléphonique mardi 20 juillet, le président turkmène Gurbanguly Berdimuhamedov a invité le président iranien Ebrahim Raisi à assister au 6e sommet des États du littoral caspien et au sommet de l'écho à Ashgabat. Félicitant l'arrivée de l'Aïd al-Adha comme la grande fête musulmane et l'anniversaire de l'indépendance du Turkménistan, M. Raisi a déclaré que l'élargissement des relations avec les voisins constitue la priorité de la politique étrangère de son gouvernement. Le président iranien a souligné les vastes capacités des deux pays à améliorer le niveau des relations et a ajouté « Les pourparlers devraient commencer dès que possible afin d'accélérer le développement des relations », soulignant la poursuite et le renforcement de la coopération internationale entre l'Iran et le Turkménistan. Raisi a déclaré « Les développements en Afghanistan sont très importants pour les deux pays et les responsables des deux pays devraient avoir les entretiens et les consultations nécessaires à cet égard. Pour sa part, le président turkmène a déclaré que les relations entre les deux pays avaient été développées sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel et d'intérêt mutuel. La coopération et l'interaction entre les deux pays sur la scène internationale sont également à un niveau élevé, a-t-il ajouté. Les liens stratégiques entre l'Iran et l'Irak contribueront à garantir la sécurité et la stabilité de toute la région, a affirmé mardi le président sortant Hassan Rouhani. La stabilité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Irak sont d'une importance particulière pour l'Iran et nous considérons que la sécurité de l'Iran et de l'Irak sont liées, a fait remarquer M. Rouhani lors d'une conversation téléphonique avec le premier ministre irakien Mostafa Al-Kazimi à l'occasion de la célébration de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Saluant la coopération de haut niveau entre les deux pays dans les domaines économiques et commerciaux, M. Rouhani a souligné la nécessité de mettre en œuvre les accords conclus entre les deux parties, notamment le projet de chemin de fer Chalamché-Bassora qui relie les régions du sud des deux pays. Pour sa part, M. Kazemi a dit que la coopération bilatérale, régionale et internationale entre Bagdad et Téhéran s'est améliorée au cours des 8 dernières années sous la présidence de M. Rouhani. Il a également exprimé l'espoir que le projet de chemin de fer reliant les deux pays, qui est à l'arrêt depuis des années, puisse devenir opérationnel le plus rapidement possible. M. Kazemi a également remercié le gouvernement iranien pour son soutien à l'Irak dans la lutte contre les groupes terroristes ainsi que pour la défense de la paix et de la stabilité dans le pays. Damas se déclare plus prêt que jamais à reprendre le Golan occupé au régime israélien en réaction aux attaques aériennes de lundi soir de l'armée sioniste sur Alep. Plutôt, le premier ministre israélien a menacé le Liban sous prétexte que plusieurs roquettes avaient été tirées en provenance de ce pays sur Israël. Les contours du conflit multifront se retracent avec une vive inquiétude liée au front nord et est. L'agence de presse officielle syrienne Sana annonçant l'attaque aérienne du régime sioniste contre la zone d'Al-Safira dans le sud d'Alep a signalé que la défense aérienne du pays avait réussi à repousser ces attaques. Le ministère syrien des Affaires étrangères a souligné mardi après-midi, en réaction aux frappes aériennes israéliennes contre certaines zones de la Syrie, que l'armée syrienne continuerait de lutter contre le terrorisme. De telles attaques font partie à la fois d'une politique élaborée par le régime sioniste pour mener des actes terroristes, un soutien continu aux groupes terroristes et une violation délibérée des résolutions du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme, a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères dans un communiqué. Damas déclare que le soutien de la part de certains États étrangers était une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Damas a mis en garde le régime sioniste contre la poursuite des attaques et le soutien aux groupes terroristes, tout en déclarant que l'armée syrienne était aujourd'hui plus déterminée que jamais à reprendre les hauteurs du Golan occupé. Après la validation de l'Assemblée nationale de France, le Sénat a adopté le projet de loi Climat et résilience, défendu mardi par la ministre française de la Transition écologique Barbara Pompili. Ce projet de loi est issu d'une partie de 146 propositions émises par la Convention citoyenne pour le climat CCC qu'avait retenu le chef de l'État français Emmanuel Macron. Parmi les mesures adoptées ce mardi figure notamment l'objectif d'une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 1990. Il y a également l'interdiction de circulation pour les véhicules polluants dans les grandes villes à partir de 2025. Toutes les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants devront instaurer des zones à faible émission où certains véhicules ne pourront plus circuler. La fin des logements énergivores, dits passoires thermiques, est prévue pour 2028 avec tout d'abord un encadrement du loyer instauré pour les logements classés F et G, soit près de 5 millions. À partir de 2025 pour les logements classés G et de 2028 pour ceux classés F. Ils ne seront plus classés logements décents et seront donc interdits à la location. La mesure s'appliquera aux logements classés E en 2034. Le délit d'écocide va également être créé concernant la pollution de l'eau et de l'air. Il sera passible d'une peine allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et de 4,5 millions d'euros d'amende. Concernant les transports, les vols aériens intérieurs seront interdits et remplacés par des trajets en train uniquement assurés par une liaison directe de moins de 2h30, sachant que des exceptions seront possibles pour des trajets assurant des correspondances. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a réitéré mardi l'adhésion de son pays à la conclusion d'un accord légal et contraignant relatif au grand barrage de la Renaissance éthiopienne, GERD, sur le Nil Bleu. Le GERD reste parmi les principales priorités du gouvernement de transition, a affirmé M. Hamdok lors d'un discours adressé au peuple soudanais à l'occasion de l'Aïd al-Adha, la fête musulmane du sacrifice. Malgré l'annonce du gouvernement éthiopien sur l'achèvement de la deuxième mise en nom du GERD dans le cadre de nouveau d'une action unilatérale, le Soudan reste attaché à la conclusion d'un accord légal et contraignant, avait remarqué M. Hamdok. Le Soudan n'épargnera aucun effort jusqu'à ce qu'un accord contraignant soit conclu, conformément au droit international et d'une manière qui préserve les intérêts nationaux du Soudan, a-t-il souligné. Lundi, le gouvernement éthiopien a annoncé qu'il avait atteint son objectif lors de la deuxième mise en œuvre du GERD, affirmant qu'il prévoyait de commencer à produire de l'électricité à partir du barrage dans les mois à venir. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie sont en pourparlers depuis des années sous l'égide de l'Union africaine sur les questions techniques et juridiques liées à la mise en œuvre et à l'exploitation de ce barrage. L'Éthiopie, qui a commencé à construire le grand barrage de la Renaissance en 2011, espère produire plus de 6000 MW d'électricité grâce au projet de barrage, tandis que l'Égypte et le Soudan, pays du bassin du Nil situé en aval qui dépend du fleuve pour leur eau douce, craignent que le barrage n'affecte leur part des ressources en eau. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Russie-Iran, le coup naval anti-OTAN. Les think tanks US spéculent à fond ces temps-ci sur ce qui pourrait être la perspective des relations Russie-Iran. Surtout qu'ils continuent à voir à travers les vœux précoces de Poutine, président élu iranien Ibrahim Raisi, avant même qu'il soit donné vainqueur de la présidentielle du 18 juin, un signe précurseur. Or, depuis quelques heures, ces spéculations battent leur plein très exactement depuis que des informations font état de la réapparition de la 77e flotte iranienne en mer de Manche, non loin des côtes britanniques. Une 77e flotte composée du navire logistique Macron et de destroyers Mutirol Sand. Ce sont deux bâtiments qui se sont fait connaître il y a peu en se rendant et pour la première mission en haute mer de la marine iranienne, en Atlantique, sans escale ni arrêt, dans quelque port que ce soit. Or, les chroniqueurs de la revue American Drive n'en étaient pas à bout de leur surprise quand la 77e flotte de la marine iranienne, ayant traversé les côtes africaines, a changé de direction pour se diriger, ont-ils dit, vers la Méditerranée. À l'époque encore, les milieux militaires américains se sont mis à mettre en garde contre des exercices que les navires iraniens risqueraient d'organiser au large de la Syrie et d'Israël, et ces mises en garde avaient tous les droits du monde de terroriser le camp occidental dans la mesure où c'était la guerre de main Israël-Gaza et que cette guerre historique était riche en surprises navales. La marine israélienne a eu ainsi droit à des attaques aux missiles anti-navires contre ses corvettes Sa'ar, à des frappes drones sous-marines ciblant ses sites offshore, entre autres. Or, depuis trois jours, la 77e flotte surprend encore. La revue Drive écrit « Deux navires de guerre de la marine iranienne ont quitté l'Atlantique et se sont dirigés vers le Manche, où ils ont fait l'objet d'un signalement ce lundi 19 juillet. » Le commandant de la marine iranienne participera aux parades navales de l'armée russe. L'ambassade de la République islamique d'Iran en Russie a annoncé d'ailleurs ce lundi que l'amiral, accompagné de l'ambassadeur iranien à Moscou, participerait le dimanche 25 juillet au défi des navals de l'armée russe à l'occasion de la journée de la marine de la Russie. Chose inhabituelle, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a aussi annoncé cette présence iranienne comme pour y mettre davantage l'accent. Eddie Drive d'ajouter. Dans une tournure surprenante des événements, deux navires de guerre de la marine iranienne ont quitté l'Atlantique et se sont dirigés vers la Manche. Des photographies satellites ont d'abord indiqué que les navires de guerre iraniens se dirigeaient vers la Manche avant que leur présence dans ces eaux ne soit confirmée par les données de Marine Traffic, un agrégateur qui fournit des informations en temps réel pour transpondeurs sur les mouvements des navires. Après avoir quitté l'Iran en avril dernier, Makran et Sahand avaient contourné le cap de Bonne-Espérance, ce qui était la première fois que des navires de la marine iranienne opéraient dans l'océan Atlantique. Pendant un certain temps, il a été prévu qu'ils pourraient traverser l'océan en direction du Venezuela pour livrer des armes et ou du pétrole. En particulier, l'apparition de 7 bateaux lance-missiles sur le pont du Makran, ainsi que ce qui semblait être une pleine charge de pétrole ou de carburant, suggérait qu'il pourrait livrer ses cargaisons à son allié en Amérique du Sud. Les soupçons se sont ensuite tournés vers un éventuel transport vers la Syrie. On craint en effet que l'Iran puisse exploiter une zone grise légale offerte par le statut militaire du navire et l'utiliser pour transporter des cargaisons vers des pays soumis à des sanctions internationales comme la Syrie et le Venezuela. Mis en service plus tôt cette année, le Makran a une longueur de 755 pieds. Il est le plus grand navire de la flotte de la marine iranienne et peut accueillir des hélicoptères et il a également été utilisé pour des manœuvres avec des drones, des engins d'attaque rapide et des mini-sous-marins. À Manche, la 77e flotte de la marine iranienne est-elle sur le point de répondre présent à un appel anti-OTAN de la Russie? Les médias iraniens affirment sans cesse que le Makran serait en mesure d'entreprendre d'autres missions, notamment la guerre électronique et des opérations spéciales, et qu'à deux, cette flotte pourrait passer 1000 jours sans escale. Dans le passé, l'amiral Khanzadi a également parlé des capacités de missiles et d'armes du navire, bien qu'il ne soit pas clair en quoi elles pourraient consister. Accompagnant le Makran, le Sahand est un destroyer avec un déplacement de 2000 tonnes équipé de lanceurs de missiles de croisière anti-navire subsonique Radar ainsi que de missiles solaires Saya 2. Le navire de guerre comprend également un canon principal de 76 mm et des tubes lance-torpilles et divers canons automatiques et des mitrailleuses pour une défense rapprochée. Avec tout ceci, et alors même qu'elle sillonne la Manche, le duo est un invité idéal pour les Russes. On pourrait bien en conclure l'importance de l'envoi de navires iraniens au parade naval de la Russie quand on pense que la Russie et l'Iran opèrent déjà ensemble en Méditerranée orientale et qu'ils ont déjà mené des exercices conjoints dans le golfe Persique et en mer d'Oman et que les eaux européennes sont une nouvelle zone d'opération pour les deux marines. La parade se déroulerait dans le golfe de Finlande, qui s'offre en une nouvelle zone d'opération pour le service au-delà du golfe Persique et du golfe d'Oman. Dans le passé, la marine iranienne a également opéré plus loin, mais principalement dans la mer Méditerranée, la mer Rouge et la partie nord-ouest de l'océan Indien. La capacité à mener des missions de longue durée et de grande endurance dans l'Atlantique puis en Europe confirme que la marine iranienne commence à concrétiser ses ambitions de devenir une marine de haute mer, mais pas que cela. Elle veut aider la Russie à contenir l'omnipotence navale de l'Occident, conclut la revue américaine The Drive.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, ces jours-ci, nous sommes témoins des manifestations anti-vaccins et contre l'extension du pass sanitaire en France. Évidemment, cela inquiète beaucoup de Français car cela remet en cause la liberté individuelle. Le Parlement est allé jusqu'à adopter, pas encore, mais il est question donc de sanctionner des entreprises qui auraient des employés qui refusent de se faire vacciner, des amendes allant jusqu'à 45 000 euros. Voilà, donc il ne serait pas faux de parler d'une dictature vaccinale en France. Évidemment, la France est le premier pays et le seul pays qui parle de ce genre de loi dans le pays. Voilà. À présent, avant d'inviter, donc d'avoir des invités, des experts des questions internationales sur le plateau, je vous invite de regarder un reportage préparé par mes collègues. On sera avec vous juste après. Voyez, restez avec nous.
Le porte-parole du gouvernement a encouragé les Français à se faire vacciner et a fustigé une frange très minoritaire de la population opposée au vaccin contre le Covid, qui selon lui se satisferait bien de rester dans le chaos et l'inactivité. Le porte-parole du gouvernement français s'est ensuite exprimé sur ceux qui critiquent les atteintes aux libertés individuelles. « Je m'étonne d'entendre M. Bellamy et Mme Le Pen se faire les apôtres de la liberté individuelle, alors que les mêmes s'opposent aux droits des femmes, à disposer de leur corps pour l'avortement et défendent des régimes autoritaires comme la Pologne ou la Hongrie qui interdisent des zones d'accès aux LGBT », a-t-il commenté. Ces déclarations de Gabriel Attal sont intervenues le jour où avaient lieu, dans de nombreuses villes de France, des manifestations contre l'extension du pass sanitaire et alors que le projet de loi concernant cette mesure et l'obligation vaccinale des soignants sera présenté le 19 juillet en Conseil des ministres. De son côté, face à l'extension du pass sanitaire, le député LFI s'est appuyé sur une citation de Montesquieu pour appeler les Français à dire non par toute une série de moyens afin de poser une limite à un pouvoir qui abuse. Le député de la Somme a développé son propos. Le pouvoir, quand il a le pouvoir, tend à en abuser. Là, il en abuse. Il abuse de cette monarchie absolue, de cette hyperconcentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Le pouvoir doit trouver une limite. Et la limite qu'il doit trouver en face, c'est nous. C'est nous qui devons dire non par toute une série de moyens, a-t-il encore expliqué, appelant les Français à poser les limites, comme le réclamait Montesquieu.
Alors voilà pour le reportage. Alors comme j'ai promis, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau deux experts des questions internationales, en commençant par M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs.
Un plaisir de vous recevoir, M. Hugon. Un grand bonjour à M. Bernard Cornu, également expert des questions internationales depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour.
Bonjour et bonne fête à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question va s'adresser à vous, M. Cornu. Depuis Vaucluse. Alors, nous parlons bien sûr de cette extension du pass sanitaire et du refus de beaucoup de Français à cet égard qui remet en cause la liberté individuelle en France. Et que pensez-vous, M. Cornu?
Oui, c'est d'abord un peu une contradiction avec ce qui avait été promis par le président Macron qui n'avait dit qu'en aucun cas ça serait obligatoire. Donc, c'est ça. Et d'autre part, je pense que c'est plus une opération politique pour apparaître dans quelques mois comme. Ayant décidé des mesures difficiles, ou disons, pour éviter un quatrième confinement. Parce qu'en fait, je pense que même le regain des contaminations actuelles, qui est dû au déplacement des gens qui sont partis en vacances, donc au mélange de population dans toute la France, dans toute l'Europe, on a quelques points dans les lieux touristiques, près de l'Espagne, près de la Méditerranée, des rebonds de la contamination, mais il n'y a pas du tout encore de rebond des hospitalisations et des hospitalisations graves, d'une part parce qu'une grande partie de la population est vaccinée, et ceci est d'ailleurs assez semblable à ce qui se passe en Angleterre, où on avait déjà depuis plus de 15 jours un rebond très fort des contaminations, mais on n'a pas constaté encore en Angleterre un rebond des hospitalisations graves et des décès. Voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement un rebond des contaminations dû au déplacement nombreux des gens, au brassage des populations, mais avec beaucoup moins de risques que précédemment, puisque déjà plus de la moitié de la population est vaccinée. Voilà. Donc restent les problèmes techniques, scientifiques posés. Est-ce que les vaccinations ne favorisent pas la production de nouveaux variants? Voilà. Est-ce que les effets secondaires connus, repérés déjà, ne risquent pas d'augmenter à moyen terme? Voilà. Donc, ce sont ces questions qu'il faut poser. Et il n'est pas sûr que les obligations vaccinales, à part peut-être pour les soignants et les personnes en contact avec les personnes vulnérables, il n'est pas sûr que ces obligations soient essentielles pour le grand public. Voilà. Donc, je pense que c'est plus une opération politique pour apparaître comme le sauveur de la nation.
Oui. Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Hugon depuis Paris. Alors, M. Hugon, j'aimerais connaître la vôtre à présent.
Oui. Alors, je pense que le dossier peut se diviser en quatre. la première partie, c'est la vaccination. Alors la vaccination, par définition, je ne suis pas contre la campagne de vaccination, dès l'instant où ce vaccin a été testé plusieurs années, de façon à voir bien sûr son efficacité, mais également les répercussions que ça peut occasionner à un grand nombre de personnes. Donc aujourd'hui, on sait que ce vaccin est dangereux, notamment pour le cœur, notamment pour des problèmes d'anxiété, de thrombose notamment. Donc ce vaccin a été mis au point à la va-vite. Et ça, c'est un véritable problème sanitaire, puisque les autorités le savent, Macron le sait, et malgré tout ça, Macron veut imposer une vaccination obligatoire. Alors que je dirais aujourd'hui, ce n'est plus Macron, son nom, mais Macronescu. On peut dire à moitié Macron, moitié Ceausescu. Donc c'est vraiment de la dictature et une atteinte aux libertés individuelles de vouloir à tout prix imposer comme ce vaccin. La deuxième partie de volet que je trouve extrêmement dangereuse, c'est que Macron est en train d'opposer les Français contre les Français. Entre ceux qui veulent se faire vacciner et ceux qui ne veulent pas, on est en train de créer une véritable fracture. Donc ça, je trouve ça absolument incroyable et extrêmement dangereux quand on sait qu'un président doit théoriquement rassembler les Français autour de lui. Lui, il les divise. Alors il est clair qu'il y a des intérêts financiers qui sont absolument énormes au niveau des laboratoires pharmaceutiques. On sait que ce vaccin va générer des dizaines de milliards d'euros de bénéfices. Donc on est en droit de se poser la question pourquoi est-ce que l'on impose un vaccin à des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas envie d'être vaccinés. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui que ce vaccin a déjà occasionné la mort de dizaines de personnes, qu'il y a des milliers de personnes qui sont malades suite à cette vaccination, et dans 4, 5, 6 ans, c'est plus des milliers de personnes que l'on aura, mais des dizaines de milliers. Donc, par définition, moi, je ne suis pas contre la vaccination dès l'instant où l'on a un recul plus important sur ces vaccins et sur leur efficacité et sur les conséquences de ces vaccinations. Alors, Macron, bien sûr, lui, veut imposer les choses comme ça, mais ce n'est vraiment pas une chose à faire. Hein. C'est plus de la dictature aujourd'hui qu'une république qui proposerait une vaccination. La vaccination, il faut la proposer, mais il ne faut pas l'imposer.
Oui, tout à fait. Alors, Bernard Cornu, vous avez dit tout à l'heure que Emmanuel Macron avait dit il n'y a pas très longtemps que le vaccin n'est pas obligatoire. Maintenant, ils sont sur le point d'adopter des lois très très sévères, contre des entreprises qui auraient des employés qui refusent de se faire vacciner, des amendes allant jusqu'à 45 000 euros, donc une somme colossale tout de même. Donc que faire donc de cette politique de deux poids deux mesures d'un président qui parle donc d'un vaccin qui n'est pas obligatoire et d'un coup il change de cap?
Donc, enfin, la loi n'est pas encore votée, donc on verra, il y aura sans doute des résistances du Parlement, même au sein du parti de M. Macron. Donc on verra bien comment la loi sera votée ces jours-ci, après être présentée au gouvernement, il y aura des résistances. Je pense que ce sera décidé certainement pour les soignants et pour tous les gens qui sont en contact avec des gens vulnérables, âgés. Et ça s'est passé déjà, je pense, en Italie et dans d'autres pays. Voilà, c'est assez logique. Je pense que même pour ces gens-là, s'il y avait des refus, ça serait, je pense, abusif de leur mettre des amendes très importantes ou même de leur refuser leur poste, de les démettre de leur poste, de les renvoyer. Donc, il n'y a pas d'autre solution que les mettre peut-être dans d'autres postes un peu à l'écart des malades ou des personnes très, très vulnérables. Voilà. Quant à ce qui va se passer dans l'entreprise, je pense aussi qu'il y aura des résistances du côté du Parlement, même dans le parti de Macron, pour éviter des mesures excessives, des amendes excessives, des punitions. Voilà. Je pense que voilà. Et encore une fois, je dis que c'est plus. Moi, je ne parlerai pas de dictature, mais je pense d'une astuce du président se présenter comme un sauveur de la nation qui aurait évité un quatrième confinement. Parce qu'encore une fois, je constate que dans tous les pays, même où il y a eu des reprises d'épidémie il y a plus de 15 jours, comme en Angleterre, il n'y a pas des rebonds de la mortalité et des hospitalisations très graves. Et en France, parmi les gens qui sont testés positifs au Covid, et qui vont, c'est essentiellement des gens qui n'ont pas été vaccinés. Donc je pense qu'il y a un abus, disons, d'utilisation du rebond de vaccination, du rebond de contamination dû au brassage des populations en ce début de vacances, d'où la fin de cette contrainte sur les masques. Et pour pouvoir agiter un peu la peur et se présenter comme un sauveur, alors qu'en fait, je pense que quoi qu'on fasse, il n'y aura pas de rebond des hospitalisations graves, des mises en soins intensifs et des décès, comme on le constate dans d'autres pays qui ont eu ces vacances et ces rebonds de contamination avant nous, déjà il y a plus de 15 jours ou 3 semaines.
Tout à fait. Alors, Philippe Hugon, est-ce qu'on peut parler quand même d'une dictature vaccinale quand un président essaye d'imposer donc cette dictature donc à la population, une population avec des manifestations anti-vaccins et contre l'extension du pass sanitaire?
Oui, alors, moi, je confirme et je défends cette position. Macron a été élu par des financiers pour imposer une dictature en France. Ce n'est pas une dictature avec des armes, mais une dictature douce, une dictature par la finance, une dictature par la maladie, puisqu'on sait très bien que le virus du Covid a été lâché. Aujourd'hui, je pense plus que qui que ce soit peut douter de cette information, puisque ça permet d'écraser les populations et de couper la parole aux rares personnes de l'opposition qui pourraient venir contester les décisions prises par Macron.
Philippe Hugon, est-ce que ça a été réussi, d'après vous?
Pardon?
Est-ce que ça a été réussi, ce projet donc de lancer
ce... Bien sûr, ça c'est une opération qui a très très bien réussi. D'ailleurs, il y a plusieurs années que je disais que ce problème de virus allait arriver, ce qui permet de rendre contrôlable une situation qui n'est plus du tout contrôlable. Je parle de la situation sociale, financière, du travail, etc. Donc ça fait des années que je l'avais dit d'ailleurs sur notre antenne que ce virus serait lâché. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le pain béni, c'est les variants de ce virus. Parce que ce virus va se mettre à tuer dans les années qui viennent par le biais de variants et qui vont réapparaître à différents coins du globe et qui permettra d'éliminer du monde. Hein. Il faut bien savoir que dans les 15 ans qui viennent, 15-20 ans qui viennent, si on veut que notre civilisation perdure dans le temps, il faudra éliminer 8 milliards de personnes. La Terre ne peut pas supporter hein, 9 milliards de personnes comme ça. On n'arrive déjà pas, dans certaines régions, à se nourrir. On n'arrive déjà pas à vivre correctement, même dans nos sociétés occidentales aujourd'hui. Donc on sait très bien que tout ceci est planifié d'en haut depuis pas mal d'années. Ce serait irresponsable de penser que les choses arrivent comme ça. C'est une très grande absurdité. Donc aujourd'hui, Macron, lui, il a été mis à la tête de l'État par des financiers pour imposer un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, quand on parle de la vaccination obligatoire, moi j'appelle plus ça une république, j'appelle ça une dictature. Quant au parti de Macron, c'est plus la république en marche, c'est la dictature en marche. Malheureusement, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ne voient pas la réalité des choses, n'ont pas suffisamment de recul sur ce qu'il se passe et n'ont peut-être pas suffisamment d'informations, puisqu'il faut savoir que les livres divulgués sont totalement faux et que les médias français ne diffusent que de fausses informations sur ce problème sanitaire. Donc, pour les gens informés, on sait très bien que les choses vont très très mal se passer dans les années qui viennent. Macron a été élu pour ça. Et Macron, c'est une poupée d'ailleurs dans tous les sens du terme, hein. Mais c'est une poupée qui est manipulée par des financiers. Donc il ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce qu'on lui dit, ce qui est bien différent. Et je suis au regret de constater qu'en France, qu'il y a encore des gens qui doutent encore des dessins, des financiers qui ont décidé pour nous un certain nombre de choses. Et je trouve ça vraiment regrettable que les gens puissent aient pu voter pour un type comme ça, puisqu'on n'a plus aujourd'hui de politique avec vraiment des convictions. Aujourd'hui, c'est l'argent qui dirige tout, et malheureusement, c'est une véritable catastrophe pour l'humanité.
Bernard Cornu, est-ce que vous partagez la colère de M. Hugon quand il parle d'un président qui a été élu pour être dictateur?
Jean, dirais que les puissances d'argent ont certainement contribué à financer sa campagne, donc à lui permettre d'être élu dans les conditions des élections françaises, c'est-à-dire avec pas une grosse proportion de voix à cause de notre système électoral. En revanche, je pense que les gens qui sont enrichis, effectivement, ce sont d'autres puissances d'argent, ce sont les grands laboratoires pharmaceutiques, tous les directeurs de laboratoires, parce qu'en France, on fait encore 400 000 tests par jour. Ce sont des tests qui sont automatisés, qui se font donc avec peu de personnel, et on va voir que tous les laboratoires, petits ou grands, ont fait des fortunes dans cette période-là, alors qu'en fait, on pourrait avoir des politiques beaucoup plus ciblées sur les seules personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui ont d'autres maladies, les personnes qui sont obèses, puisque l'on sait que les taux de létalité sont très très faibles, c'est 0,01%. Pour les personnes actives jusqu'à 45 ans, c'est aussi très faible, et ça se compte en, il y a très peu de risques pour ces gens-là. Donc, encore une fois, la gestion sanitaire a été très généralisée, alors qu'elle aurait dû être depuis le début, parce qu'on savait déjà pour les études chinoises, par les observations dès le début de l'épidémie, les statistiques, on savait que les populations en risque étaient très bien définies. Et qu'on a généralisé en fait des actions, on a embêté tous les jeunes, tous les actifs, et comme l'a dit récemment un médecin psychiatre de Bordeaux dans une lettre à Macron qui a été publiée, les mesures de la gestion sanitaire a affecté les jeunes beaucoup plus gravement que le Covid lui-même. C'est-à-dire les gens ont été privés d'université, privés d'école, privés de présence, de contact avec leurs professeurs. Cela est très mauvais pour la société en général. Voilà. Donc moi, ce que je critique, ce n'est pas une dictature sanitaire, mais une mauvaise gestion de cette pandémie en France et dans beaucoup de pays. Au lieu d'être ciblés, les politiques ont été généralisées et je pense que ça a été très nocif pour une partie de la société.
Donc d'où, M. Bernard Cornu, la présence des milliers de Français dans les rues pour crier leur colère contre donc l'obligation de ce vaccin et contre l'extension du pass sanitaire, M. Cornu?
Il y a eu au moins 115 000, 114 000 Français dans les rues contre ça, mais ça représente un nombre très faible. C'est de l'ordre de ce qu'il y en avait dans les manifestations des Gilets jaunes. Ce n'est pas les manifestations, un million de personnes contre les guerres du Golfe qui ont été quand même prises, qui ont été faites quand même. Donc c'est encore des mouvements marginaux. Et malheureusement, ce que je regrette moi-même, ce sont surtout des personnalités de la droite, de l'extrême droite, qui se sont manifestés dans ces manifestations, qui ont parlé, alors que les partis de gauche, les partis écologistes ont un discours, un peu de discours cohérent et fort de critique de la gestion de l'épidémie, y compris de l'imposition du pass sanitaire et des mesures de restriction qu'on va avoir à partir de après-demain en France ou début août. Voilà. Elles sont nocives pour l'économie, qui sont nocives pour la société, à qui on impose des choses au lieu de discuter, d'avoir des efforts pédagogiques avec un vrai débat scientifique qu'on n'a encore jamais vu dans nos télévisions, puisqu'on voit toujours la parole de l'État et du comité scientifique proposé par l'État, sans un réel débat entre scientifiques, entre spécialistes.
Oui. Philippe Hugon, parlons de Mélenchon, je vous prie, à présent, la France insoumise, le parti La France insoumise, qui s'est déjà déclaré très en colère contre donc ces lois qui vont être adoptées très bientôt pour sanctionner des Français qui refusent de se faire vacciner. Est-ce qu'il a raison?
Alors, je m'excuse, mais pas entendu, la communication a été coupée. Si vous voulez bien répéter.
Oui, bien sûr. J'aimerais que vous parliez de Mélenchon, la France insoumise, qui se dit prêt donc à contrer ces lois qui consistent à sanctionner des Français qui refusent d'être vaccinés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce monsieur?
Je suis vraiment désolé, la communication est très mauvaise et je ne vous entends pas très bien.
Oui, est-ce que vous m'entendez à présent, monsieur Hugon?
Oui, allez-y.
Voilà, alors Mélenchon, la France insoumise, qui se dit donc très en colère et qui veut contrer ces lois qui vont être adoptées bientôt pour sanctionner donc les Français qui refusent d'être vaccinés. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mélenchon?
Ah oui, bon, moi je pense qu'il faut le
boycotter cette campagne de vaccination puisque ce vaccin est dangereux. Et les vaccins mis au point actuellement sont dangereux. Ce qui est assez incroyable, c'est que Macronescu a décidé malgré tout d'imposer un certain nombre de vaccinations en espérant bien sûr que ça ne se passe pas, puisque ça voudrait dire dans ce cas-là que du fait que les hautes autorités françaises connaissent la dangerosité de ces vaccins, laissent vacciner les gens. Donc ça veut dire que ça, c'est quand même des crimes quand on sait que ce vaccin peut tuer. Donc c'est des crimes avec préméditation, puisqu'ils le savent. Donc il ne faut plus se faire vacciner actuellement, puisque ces vaccins sont dangereux. Et il ne faut surtout pas l'imposer aux gens. Que des gens veulent se faire vacciner, c'est le droit, c'est des libertés individuelles. Donc qu'ils se fassent vacciner, c'est une chose. Mais de l'imposer aux gens, ça, c'est plus c'est plus un acte républicain, c'est une dictature, là. Donc il faut arrêter tout ceci et essayer de bloquer toutes ces lois qui sont vraiment perverses et qui vont contre la démocratie. Donc je le dis bien, il faut le proposer, mais ne pas l'imposer aux populations.
Monsieur Cornu, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Monsieur Hugon?
Ah, ce qu'a dit Mélenchon, je suis tout à fait d'accord. Il parlait surtout des soignants et des personnes qui travaillent avec des personnes vulnérables, âgées ou malades. Envisager de les punir sévèrement, de les renvoyer, c'est inadmissible parce que les soignants ont été à la pointe de la lutte contre la pandémie en soignant les gens, en étant très mobilisés, en étant privés de vacances, même certaines. Je pense qu'il faut envisager d'autres mesures que ces amendes très fortes ou ces punitions, ces renvois de leur emploi. Je crois que les soignants et les personnes qui sont occupées des personnes âgées sont des personnes qui ont beaucoup mérité, comme on dirait, de la patrie et de tous les efforts qu'ils faisaient. Je pense qu'il est très malsain de les menacer. Je pense que si certains sont vraiment réfractaires à la vaccination, qui, à mon avis, n'est pas dangereuse. On connaît mal les risques à long terme, mais les vaccinations pour d'autres maladies ont toujours fait des effets secondaires dans les quelques semaines suivant la vaccination, dans l'immense majorité des cas des vaccinations. Et donc, autant je reconnais qu'il y a des risques parce qu'il y a un inconnu, des effets à long terme, autant je ne dirais pas qu'elle est vraiment dangereuse. Le taux de mort de gens vaccinés s'établit à quelques 7 ou 8 personnes par million parmi les vaccinés, selon les statistiques de tous les temps qui contrôlent les effets secondaires suite aux vaccinations. Voilà, je pense qu'il est quand même, disons, un peu excessif de dire que la vaccination est dangereuse. Il y a des inconnus, il y a des risques, oui, mais dire déjà qu'elle est dangereuse, moi je ne partage pas tout à fait cette avis. Voilà. Donc, mais par contre, je soutiens tout à fait cette politique de M. Mélenchon d'avoir dit qu'il est inadmissible d'envisager des mesures aussi graves envers ceux qui refuseraient, parmi les soignants, qui refuseraient la vaccination.
Bernard Cornu, depuis Vaucluse, expert de questions internationales. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Philippe Hugon, reporter de guerre, également expert de questions internationales, d'avoir apporté beaucoup de précisions et avait fait vivre le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Le pacte vert européen et l'effondrement industriel de l'Europe. Une des rares déclarations honnêtes de Bill Gates a été sa remarque début 2021, selon laquelle, si vous pensez que les mesures du COVID sont mauvaises, attendez les mesures pour le réchauffement climatique. L'Union européenne est en train d'imposer de haut en bas les mesures les plus draconiennes à ce jour qui détruiront effectivement l'industrie moderne à travers le visage des 27 États de l'Union européenne. Ceux de jolis noms tels que Fit for 55 et le Pacte vert pour l'Europe, des technocrates non élus, finalise à Bruxelles des mesures qui provoqueront le pire chômage industriel et le pire effondrement économique depuis la crise des années 30. Des industries telles que l'automobile ou le transport, la production d'électricité et l'acier sont sur la sellette. Tout cela pour une hypothèse non prouvée appelée réchauffement climatique d'origine humaine. Alors que la plupart des citoyens de l'Union européenne ont été distraits par des restrictions sans fin concernant une pandémie de type grippal appelée COVID-19, les technocrates de la Commission européenne à Bruxelles ont préparé un programme de désintégration planifié de l'économie industrielle de l'Union européenne. L'aspect pratique d'un groupe supranational non élu, loin de Bruxelles ou de Strasbourg, est qu'il n'a pas de compte à rendre à de véritables électeurs. Ils ont même un nom pour cela, le déficit démocratique. Si les mesures sur le point d'être finalisées par la Commission européenne sous la direction de la présidente allemande Ursula von der Leyen et du technocrate néerlandais Frans Timmermans, vice-président chargé du réchauffement climatique, sont adoptées, voici un aperçu de ce qui se passera. Le 14 juillet, la Commission européenne présente son programme vert Fit for 55, ajustement à l'objectif 55. Bien que le titre ressemble davantage à une publicité pour un centre de santé pour personnes d'âge moyen, il s'agira du programme de désindustrialisation le plus draconien et le plus destructeur jamais imposé en dehors de la guerre. Fit for 55 sera le cadre central des nouvelles lois et règles de Bruxelles pour réduire considérablement les émissions de CO2 en utilisant des systèmes tels que les taxes sur le carbone, les plafonds d'émissions et les systèmes de plafonnement et d'échange. Ce Fit for 55 représentera la première fois au monde qu'un groupe de pays, l'Union européenne, impose officiellement un programme visant à imposer un absurde zéro CO2 d'ici 2050 et une réduction de 55% du CO2 d'ici 2030. L'un des principaux objectifs du pacte vert pour l'Union européenne sera de prendre des mesures qui obligeront les véhicules à moteur à combustible interne, voitures et camions à essence ou diesel, à respecter des limites d'émissions de CO2, si punitives qu'ils seront contraints de quitter les routes d'ici 2030, voire plus tôt. Le plan modifiera l'objectif actuel d'une réduction de 37,5% des émissions de CO2 des véhicules d'ici à 2030 pour le remplacer par un objectif de zéro émission d'ici à 2035, selon la rumeur. Il ne s'agit pas d'un problème mineur, car la transition des voitures et camions à moteur à combustible interne vers les voitures électriques entraînera une perturbation sans précédent des chaînes de fournisseurs automobiles actuelles. La lettre souligne qu'à l'échelle de l'Union européenne, le secteur automobile compte 8,5% de tous les emplois manufacturiers européens et a produit, en 2019, près de 10% du PIB de la seule Allemagne, ainsi que 40% des dépenses de recherche et développement du pays. L'Union européenne représente aujourd'hui plus de 50% des exportations mondiales de produits automobiles. Il souligne que la transition vers les véhicules zéro CO2 entraînera la perte d'au moins 2,4 millions d'emplois qualifiés et bien rémunérés dans l'Union européenne. Des régions entières seront déprimées. La lettre souligne que Bruxelles n'a même pas encore dressé la carte des conséquences du pacte vert pour le secteur automobile. Un autre principal objectif du pacte vert pour l'Union européenne concerne le domaine de l'acier. Le plan drastique de l'Union européenne contient de nouvelles dispositions qui signifieront des changements radicaux pour les industries européennes de l'acier et du ciment, grandes consommatrices d'énergie. des fuites dans le plan de l'Union européenne indiquent qu'elle prévoit de supprimer les permis de polluer actuellement gratuits du SEQE pour les industries à forte intensité, énergétique telles que l'acier ou le ciment. Cela portera un coup dévastateur à ces deux industries essentielles. Il l'appelle le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières. Le Forum économique mondial de Davos, toujours actif, joue également un rôle important dans l'élaboration du pacte vert pour l'Europe de la Commission européenne dans le cadre de cette grande réinitialisation. En janvier 2020, le Forum économique mondial, lors de sa réunion annuelle à Davos, a réuni des leaders de l'industrie et du monde des affaires avec le vice-président exécutif Frans Timmermans pour étudier comment catalyser le pacte vert pour l'Europe. Le dévoilement du 14 juillet par Bruxelles en est le résultat. Le FEM soutient le groupe d'action des PDG pour le pacte vert européen afin que les grandes entreprises soutiennent le plan dystopique de Bruxelles.